Alors, je vous invite à prendre votre Bible, parce que comme d'habitude, nous allons essayer de voir la parole de Dieu ce matin. Et aujourd'hui, nous sommes sur notre deuxième message de la série « Vivre bien, vivre différemment ». Nous avons commencé dimanche dernier en parlant du pourquoi. Pourquoi vivre selon les prescriptions que Dieu nous donne dans sa parole si ce n'est pas pour gagner le salut? Si l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous enseigne que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et non pas par nos bonnes œuvres, pourquoi vivre selon sa parole? Et si vous n'avez pas vraiment saisi cette vérité, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, il faut commencer là. Je vous invite à vraiment réfléchir sur cette réalité. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne vivons pas pour le Seigneur afin d'être sauvés. Nous sommes sauvés afin de... Nous devons commencer là. Mais ça, on prend la question, si, selon la parole de Dieu. Et ce que nous avons vu la semaine dernière, une vie riche et une vie belle et une vie normale. Obéissant à Dieu, c'est pour notre bien, c'est pour le bien des autres et c'est aussi sauveur. Je vous rappelle le verset Romains 1 de Dieu. Je vous invite donc, frères, à lui offrir votre cœur comme un sacrifice. Nous abordons la question du comment. Comment vivre cette vie belle et riche vivant? Et surtout, aujourd'hui, comment savoir vivre bien? Si vous êtes chrétien depuis longtemps, ou peut-être pas toujours évident, la vie est compliquée. Et en plus, notre ancienne nature, vous l'avez trouvé? C'est pour ça que l'apôtre Paul, suite à ce verset en Romains, à laisser Dieu produire en nous une nouvelle façon de penser. Et de Dieu à lui offrir notre cœur comme un sacrifice vivant. Le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez peut-être remarquer que Paul ne dit pas mémoriser une liste de règles transformées afin de discerner la volonté de Dieu. C'est pour ça que la vie chrétienne de règles, c'est une transformation perpétuelle de notre être, parce que nous sommes en relation avec Dieu. Donc, comment avoir cette intelligence renouvelée? Et comme nous le verrons, pour ça, il nous donne l'Esprit et le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous aurons une connaissance basée sur la Bible, appliquée par l'Esprit, et discerner, je ne sais pas si vous n'avez pas eu le temps de noter ces trois points. Parce que nous allons commencer. Bon, si on peut. Il paraît que... Nous allons commencer par la connaissance de Dieu et de la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu communiquée à l'humanité. Notre manière dont Dieu peut nous parler, mais c'est le point de départ. C'est le standard d'appellation de Dieu que nous pouvons avoir, doit être évalué et jugé. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre. Et c'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui. De devenir sage que nous pouvons avoir, parfois je trouve, c'est avec la phrase « toute l'écriture ». Mais en quoi cela me rend-il sage? Comment ces généalogies ou ces histoires obscures, l'utilité de certains passages est moins évidente que d'autres? Il ne faut pas se décourager par eux. Et vous pouvez passer tous les jours de votre vie en étudiant les vérités essentielles près de la surface. Son but n'est pas de nous cacher la vérité, mais de la révéler au fur et à mesure de mon expérience de ramasser des pommes de terre à la cueillette de Champoux. je ne sais pas si pomme de terre se trouve sur la surface. Et si on veut, on peut toucher la surface. Certaines assez profondes. Et pour trouver, de chercher une pelle et creuser la terre, mais assez rapidement, pour que notre intelligence soit renouvelée de plus en plus profondément, maintenant, quelques pelles, quelques outils pour guider votre recherche de comment vivre bien selon la parole. Alors, d'abord, il faut se souvenir que la Bible n'est pas principalement le but de cette histoire et de nous révéler à la fois le caractère de Dieu et complètement bon. Même les grands héros de la foi apprendre un être humain comme modèle parfait. Même les héros de la foi, sauf Jésus. Il a quitté son pays pour aller à la terre promise. Ça, c'était bien. Mais Abraham a aussi pris Agar comme concubine lorsqu'il... C'est clair que le premier acte était bon, mais le deuxième, non, tout son cœur. Faisons donc attention. Quand nous cherchons à savoir comment vivre bien, à ne pas prendre comme exemple quelque chose qui nous est donné plutôt comme un mauvais exemple. Des exemples où le texte lui-même ne nous dit pas que c'était. Dans l'Ancien Testament, par exemple, nous apprenons que Dieu est fidèle, même quand Abraham n'est pas toujours. Quand nous lisons les histoires de la Bible, il faut toujours se poser la question son caractère que nous devons refléter par notre façon de vivre. Notre but principal en lisant la Bible doit être à apprendre à connaître Dieu. La deuxième chose à savoir quand on cherche la Bible pour bien vivre, pour savoir bien vivre, c'est que les prescriptions de l'ancienne alliance données au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, elles ne sont pas les mêmes que celles qui sont données à l'Église dans la nouvelle alliance établie par Jésus. Jésus est l'accomplissement de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle. C'est ça le sens de ces mots que nous lisons à la Sainte Cène. Vous l'avez entendu ce matin. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. La nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Ce qui veut dire que les règles et les lois données spécifiquement au peuple d'Israël ne s'appliquent pas directement à nous. Ces lois étaient données au peuple d'Israël pour qu'ils puissent vivre une vie rayonnante et abondante en tant qu'une nation particulière. Mais quand Jésus nous a annoncé une nouvelle alliance, il a fait cette alliance non pas avec une nation particulière. Cette nouvelle alliance, elle est faite avec qui? Avec tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, peu importe leur nationalité. C'est un beau changement. Dieu n'a pas changé. Soyons clairs, Dieu n'a pas changé. Mais l'histoire avance. Par sa vie et sa mort et sa résurrection, Jésus a accompli l'ancienne alliance et il a créé une nouvelle avec un nouveau peuple qui vient de toute nation de la terre. Un nouveau peuple qui s'appelle l'Église. Et là, on pourrait tenter de dire, ben alors, on n'a pas besoin de lire alors l'Ancien Testament pour vivre bien. Donc, je vais juste prendre ces dernières pages de ma Bible et jeter le reste. Bon, ça ferait une Bible beaucoup plus facile à porter. Mais il ne faut pas le faire, parce que ce n'est pas vrai. Parce que toute cette histoire est notre histoire. Et toute cette histoire nous révèle le caractère de Dieu et les valeurs de Dieu. Et dans les semaines à venir, lorsque nous considérons des questions précises sur notre comportement, sur l'éthique chrétienne, nous devons prendre les valeurs et les principes qui se trouvent dans l'Ancien Testament en compte, même si leur application sera parfois différente pour l'Église qu'elle était pour le peuple d'Israël. Et donc c'est ça la troisième page. Il n'y a qu'un seul Dieu, Même s'il y a plusieurs alliances, deux alliances, il n'y a qu'un seul Dieu et son caractère se révèle tout au long de cette histoire. Et donc toutes les prescriptions qu'on trouve, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, tout ce qu'on trouve dans la Bible revient à deux choses. Vous connaissez ces deux choses. Matthieu 22. Quelqu'un demande à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il cite Deutéronome, la loi de l'Ancien Testament. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. L'amour pour Dieu et pour son prochain est la base de notre comportement pour vivre bien. Qui que nous soyons. Et notre but dans les semaines à venir sera de poser la question à quoi ressemble cet amour face à certaines questions très importantes et précises. La guerre et la paix, par exemple. La sexualité, la justice sociale, et ainsi de suite. Et il faut se poser cette question en creusant la Bible, parce que ce n'est pas notre définition de l'amour qui compte au final. C'est ce que la Bible en dit. L'amour biblique n'est pas essentiellement un sentiment. Il ne doit pas être basé sur notre idée de ce qui est bien. Il doit à chaque instant se puiser dans le caractère de Dieu qui se trouve dans la Bible. Voir ça de près sera le but de ces prochaines semaines. Alors, si c'est essentiel de connaître la Bible pour savoir vivre bien, il faut aussi laisser le Saint-Esprit nous guider dans l'application de cette connaissance dans des situations précises. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de règles pour aider le peuple d'Israël à appliquer la parole de Dieu. La plupart de ce qu'on trouve dans la loi de Moïse est en fait des règles d'application. Ce sont souvent des règles très précises pour aider le peuple à mettre en pratique les commandements de base, c'est-à-dire les 10 commandements. Mais dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus tous ces exemples de cas précis. Parce que maintenant, nous avons l'Esprit. Nous avons l'Esprit pour nous aider à appliquer des commandements généraux aux situations précises dans lesquelles nous nous trouvons. C'est l'une des plus grandes différences entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. La différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, c'est que dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'Esprit. À Pentecôte, l'Esprit est descendu de façon permanente sur l'Église. Et Jésus parle de son rôle en Jean 16, verset 13. Quand le défenseur, c'est le Saint-Esprit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute vérité, dans toute la vérité. Depuis lors, l'Esprit habite en chaque croyant comme gage de prémisse de notre avenir avec Dieu. Et c'est lui, la présence de Dieu en nous, qui peut nous éclairer les Écritures et nous montrer comment les mettre en pratique. Là où le peuple d'Israël n'avait qu'une liste de règles, nous avons Dieu lui-même pour nous guider. Si vous savez pourquoi remercier Dieu de temps en temps, pensez à ça. Nous n'avons pas une liste de règles, nous avons Dieu lui-même pour nous aider à vivre bien. Je vous donne un exemple qui se trouve en Deutéronome 22. Deutéronome 22, verset 8. Et pour comprendre ce verset, il faut d'abord savoir que les Israélites construisaient des maisons avec un toit plat sur lequel on pouvait monter comme un étage. Et voici donc la règle qui se trouve en Deutéronome 22, verset 8. Si tu construis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas charger de ta maison de sang dans le cas où quelqu'un en tomberait. Souvent, en Deutéronome, Dieu ne donne pas beaucoup d'explications. Et donc, ce n'est pas toujours évident de comprendre pourquoi il a donné telle ou telle règle au peuple d'Israël. Mais dans ce verset-là, nous avons l'explication. Pour que personne ne se fasse mal en tombant de ton toit. C'est une explication qui nous renvoie directement à notre amour les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on dit que la loi, toute la loi, dépend de l'amour pour Dieu et pour les autres. Alors, moi, quand je trouve ce verset dans ma Bible, je peux bien me dire, je ne suis pas israélite, je ne suis pas sous l'ancienne alliance, devrais-je alors mettre une balustrade autour de mon toit si je construis une maison? La réponse, bah pas forcément. Surtout si on ne peut pas y monter. Ce n'est pas la peine. Et c'est aussi, c'est vrai, en Jésus, je suis libéré de la loi de Moïse. Mais l'apôtre Paul nous dit clairement en Galates 5 que cette liberté ne doit pas être prise comme un prétexte pour faire n'importe quoi. Galates, chapitre 5, versets 13 à 16. Je vais lire. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut se poser la question, est-ce que je prends ma liberté en Christ comme un prétexte pour pécher, comme un prétexte pour ne pas aimer mon prochain, pour ne pas aimer Dieu? Dans ce cas-là, je mépris la grâce du Seigneur. Alors, quand je lis ce verset en Deutéronome sur la balustrade, je dois me poser la question, qu'est-ce que cette règle m'apprend sur le caractère de Dieu et de son amour que je dois avoir pour mon prochain? Si je laisse l'esprit m'interpeller par ma lecture, je me rends compte qu'aimer les autres signifie penser pour l'effet que mes décisions auront sur les autres. Je me rends compte que ne beaucoup plus loin que simplement ne pas tirer la balle qui tue la personne. Et Jésus dit que ça va même jusqu'à notre attitude. C'est biblique de le faire d'une façon qui n'est pas en danger les autres. Sans faire des économies hors normes. Non pas parce qu'il y a une règle, il n'y en a pas. Mais parce que ne pas le faire pourrait être dangereux. Mon propre portefeuille. Et évidemment, cela ne se limite pas à la construction d'une maison. Et pour ça, j'ai besoin de l'esprit. Le peuple d'Israël avait des règles très précises comme celle-là pour appliquer les règles. Appelle la loi un gardien ou un tuteur, quelqu'un qui était là pour les guider. Mais maintenant, ce n'est plus la loi. C'est lui qui nous aide à savoir comment appeler du gardien cette liste de règles très précises données aux Israélites. Il n'y a pas de code, pas de liberté. Vient beaucoup de responsabilités. Parce que ce n'est plus le code de la loi, tout bêtement. Maintenant, c'est une question de marché que nous devons maintenir. Ce n'est plus juste une question d'une balustrade, c'est une question de prendre des décisions. Et pour ça, il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais il faut être rempli de cet esprit et bien et appliquer les valeurs de Dieu. L'esprit, pour savoir vivre bien, nous avons aussi besoin les uns des autres. Nous avons pour nous encourager les uns les autres. pour nous exhorter, pas forcément cette Église, mais l'Église globale, avec un E majuscule. Nous pouvons avoir du mal à comprendre la profondeur de cette grande histoire qui est la Bible. Seul à discerner comment mettre l'amour de Dieu en pratique dans des situations précises, c'est la vérité. C'est l'une des raisons que l'Église est appelée le cœur du Christ. Je vais lire. À chacun, la manifestation de l'Esprit par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison par le même Esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. En les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. C'est presque impossible. Nous avons tous l'Esprit en nous, individuellement, pour nous aider à vivre l'amour de Dieu. Mais changeant sur notre vie, autour d'un repas en commun, que nous recevons une parole de Saint-Dieu, d'une sœur ou d'un frère. Parfois, ce sera dans un petit groupe. Il peut aussi utiliser d'autres frères et sœurs qui ne sont pas de cette assemblée, qui est le corps du Christ. Comme ceux qui ont rédigé le livret que nous utilisons pour cette série. Ceux qui ont étudié et qui ont prié ensemble pour connaître individuellement, pendant un temps de prière ou par une vision même. Ça va vous faire parler personnellement si vous restez fidèle à lui pour la volonté de Dieu. En Ézéchiel 13, Dieu parle justement des visées après leur penchant et dont les visions n'étaient donc pas dire une chose d'un côté et quelque chose qui compte. Et nous devons aussi faire connaître Dieu. En même temps, il faut se souvenir aussi que cette liberté, dans certaines situations, bien sûr, ces différences doivent être réglées pour notre vie ensemble. C'est pour ça. Mais il faut aussi éviter de retomber dans une attitude légaliste. À l'Église à Rome, en Romains 14, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur. À ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte pour qui le Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres et la joie. Vous voyez, c'est pas une question de réglementation. C'est une question. Et pour ça, il nous faut une connaissance profonde de Dieu lui-même. Il faut une connaissance. Et de faire mourir notre ancienne nature chaque jour. Et de vivre de force à la fin de cette série. D'où vient la force pour vivre selon ce que nous discernons qu'il nous faut? La parole de Dieu n'est pas simplement une source de connaissance. L'Esprit est la source de notre vie renouvelée. C'est une famille qui doit nous aider à la vivre. La parole, l'Esprit et l'Église pour vivre bien et vivre. Bien sûr. Mais d'abord, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs types de feux et qui sont la meilleure façon d'allumer un nouveau feu. La façon la plus sûre d'éviter ça, c'est de rester en communion avec des autres qui ont eux, de remettre avec les autres. La flamme se ranime. Pour vivre bien, ça ne vaut rien. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit en vie. Par sa parole, par son esprit, par son peuple, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut. Mais la seule façon que nous allons vivre différemment, c'est par son peuple qui nous entoure. C'est à cette vie, Seigneur, nous te remercions que cette vie nouvelle que nous avons née par l'amour que nous pouvons avoir les uns des autres. Selon cette connaissance que tu nous donnes, à avoir la force pour vivre bien, pour vivre différent, riche et belle, et une vie d'adoration ensemble. C'est toi qui peux nous donner la force. Non.